Chapitre 8. Le dragon réincarné. Les jambes raides et les nerfs à vif, Rand marchait aux côtés du champion. Affronter la tourmente debout. Facile à dire pour l'âne, qui n'avait pas été convoqué par la chair d'Amerline. La vie devait paraître bien souriante, quand on ne craignait pas d'être apaisé avant le coucher du soleil, voire exécuté pour ce qu'il en savait. Comme s'il avait quelque chose coincé en travers de la gorge, Rand tentait de déglutir, mais il n'y avait pas moyen. Les couloirs grouillaient de monde. Des domestiques allaient et venaient au gré de leur corvée matinale, croisant des guerriers toujours en tenue de repos, mais armés jusqu'aux dents. Quelques jeunes garçons, équipés de petites épées d'exercice, accompagnaient leurs aînés et imitaient leur façon de marcher. Il ne restait plus de traces des combats de la veille, mais tous les résidents de la forteresse, y compris les enfants, restaient sur le qui-vive. Tels des chats à l'affût d'une bande de rats, les défenseurs semblaient être prêts à bondir au moindre événement suspect. Quand ils le croisèrent, Ingtar jeta à l'âne et à Rand un regard étrange, presque tourmenté. Puis il ouvrit la bouche, mais se ravisa et continua son chemin en silence. Khajiin, un grand guerrier mince au teint cireux, se tapa du poing sur le cœur et cria
« Taïchar, Malkier! Taïchar, Manéteren !»
Le sang pur du Malkier, le sang pur de Manéteren.
« Par la lumière. Pourquoi a-t-il dit ça ?»
se demanda Rand, épouvanté.
« Allons, ne sois pas stupide. Ici, tout le monde a entendu parler de Manéteren. Dès qu'il est question de bataille, ces gens connaissent toutes les anciennes histoires. Bon sang, il faut que je me contrôle un peu. »
L'âne leva un poing et répondit au salut rituel.
« Taïchar Shienar !»
S'il courait assez vite, Rand avait une chance de se fondre dans la foule, de gagner les écuries et...
de me retrouver poursuivi par une meute de chasseurs.
S'il ne se reprenait pas, la tension finirait par lui jouer un mauvais tour. Aux abords des quartiers des femmes, l'âne cria soudain.
« Le chat qui traverse la cour !»
D'instinct, Rand adopta la démarche que lui avait enseignée le champion. Le dos bien droit, certes. Mais les muscles détendus, comme s'il pendait au bout d'un fil accroché au sommet de son crâne. Une façon de flâner en quelque sorte, mais avec un rien d'arrogance. En tout cas en manifestant une assurance que Rand n'éprouvait pas du tout. Par bonheur, il n'eut pas le loisir de s'apesantir sur la question, car l'âne et lui, marchant exactement au même pas, arrivèrent en vue de l'entrée des quartiers des femmes. Les résidentes qui montaient la garde regardèrent approcher les deux hommes sans s'inquiéter outre mesure. Assises devant des lutrins, certaines de ces femmes consultaient des grands livres comptables, y ajoutant de temps en temps quelques chiffres mystérieux. D'autres tricotaient ou brodaient pour passer le temps. Des dames en robe de soie et des servantes en livrée s'acquittaient de leur mission dans un parfait esprit d'égalité. Sous l'arche d'entrée, les portes étaient ouvertes et les femmes seules se chargeaient de la surveillance. Il n'y avait pas besoin de précautions supplémentaires. Aucun homme du Shienar n'aurait franchi ces portes sans invitation. En revanche, tous auraient répondu « présent » avec enthousiasme s'il s'était agi de les défendre jusqu'à la mort. Des remontées acides apprirent à Rand que son estomac se rebellait.
« Dès qu'elles auront vu nos épées, elles nous interdiront d'entrer, c'est sûr. Mais pourquoi m'en plaindrais-je? C'est ce que je veux, non? Si on nous éjecte, j'aurai peut-être l'occasion de filer, à condition que ces dames n'ameutent pas la garde. »
Rand s'accrocha à la démarche du chat qui traverse la cour, un peu comme on s'accroche à un morceau de bois flotté lors d'un naufrage. S'il ne s'était pas concentré sur chaque pas, rien au monde n'aurait pu l'empêcher de tourner les talons et de détaler comme un lapin. Une des dames d'Amalisa, Nisura, une brune au visage rond, posa sa broderie et se leva. Dès qu'elle aperçut les épées, elle eut une moue contrariée, mais elle n'émit aucun commentaire. Se détournant de leurs occupations, toutes les femmes levèrent les yeux, attentives et silencieuses.
« Honneur à vous deux !»
dit Nisura en inclinant très légèrement la tête. Elle regarda Rand, mais si brièvement qu'il se demanda s'il n'avait pas rêvé.
« La chère d'Amerline veut te voir !»
avait dit Perrine. Eh bien, à l'évidence, tout le monde le savait. Sur un signe de Nisura, deux autres femmes, des dames, pas des servantes, décidément on les couvrait d'honneur, s'avancèrent afin d'escorter les visiteurs. S'inclinant un peu plus bas que Nisura, mais à peine, elles indiquèrent au mâle de franchir l'arche. Après avoir jeté un rapide coup d'œil à Rand, elles aussi évitèrent de reposer les yeux sur lui.
« Nous cherchait-elle tous les trois? Ou en avait-elle juste après moi? Mais que voudrait-elle à Matt et à Perrine ?»
Une fois à l'intérieur, les choses se passèrent exactement comme Rand l'attendait. Deux hommes dans les quartiers des femmes
où on n'en voyait presque jamais, ne pouvait qu'attirer l'attention. Les épées firent se plisser plus d'un front, mais aucune résidente ne s'autorisa un commentaire. À haute voix, en tout cas, car les murmures allaient bon train, bien trop bas pour qu'on puisse les comprendre. S'en fichant comme d'une guigne, l'âne avançait comme s'il ne s'apercevait de rien. Beaucoup moins déterminé, Rand suivait leurs deux guides, en regrettant de ne pas avoir l'ouïe plus fine. Trois Aes Sedai montaient la garde devant les appartements de la chère d'Amyrline. La plus grande de toutes, Léane, arborait son grand sceptre à la pointe en forme de flamme. S'il ne connaissait pas les deux autres Aes Sedai, Rand les situa grâce aux franges de leur châle, une sœur blanche et une sœur jaune. Leur visage lui disait quelque chose, et il comprit vite pourquoi. Lors de sa folle équipée, il était passé devant elle, sa lame au poing. L'air soupçonneux, elle le lorgna d'ailleurs en plissant le front, les lèvres étirées en une moue dubitative. Léane avisa Rand et eut un sourire en coin.
« Qui amènes-tu aujourd'hui à la chaire d'Amyrlin, l'âne Gaydin ? Un jeune lion ? Il vaudrait mieux que les sœurs vertes ne le voient pas, ou il se retrouvera au lit avec l'une d'elles avant d'avoir compris ce qui lui arrive. Tu sais qu'elle aime prendre les hommes au berceau. »
Rand se demanda s'il était possible de transpirer de l'intérieur. Parce que c'était exactement l'impression qu'il avait. Il voulut regarder l'âne, mais il se souvint que c'était proscrit par le champion lui-même.
« Je suis Rand Altor, fils de Tam Altor, et originaire de Deux Rivières, un lieu jadis connu sous le nom de Mané Terren. Léane Sedai, je suis ici parce que la chère d'Amyrlin m'a convoqué. »
Le jeune homme fut très surpris que sa voix n'ait pas tremblé un seul instant. Le sourire de Léane se volatilisa.
« Ce garçon est censé être un berger, l'âne Gaydin ? Ce matin, il était beaucoup moins sûr de lui. »«
C'est un homme, Léane Sedai. Rien de plus ou de moins. Nous sommes ce que nous sommes, voilà tout. »
Aes Sedai hocha pensivement la tête.
« Chaque jour, le monde devient un peu plus étrange. À ce rythme-là, le forgeron portera une couronne et nous répondra en hochant. Bon, attendez ici. »
Elle entra afin d'aller prévenir la chère d'Amyrlin de l'arrivée des deux invités. Son absence ne dura pas longtemps. Très mal à l'aise sous le regard des deux autres Aes Sedai, Rand tenta de ne pas baisser les yeux, comme l'âne lui avait recommandé. Se rapprochant l'une de l'autre, les deux sœurs tinrent une messe basse. « Que se disent-elles ? Et que savent-elles sur moi ? Par la lumière, elles se préparent peut-être à m'apaiser. » « C'est ça que voulait dire l'âne en parlant d'affronter la tourmente debout ?» Léane revint et fit signe à Rand d'entrer. Lorsque l'âne fit mine de suivre le mouvement, elle lui barra le chemin avec son sceptre, tenu à l'horizontale comme une lance.
« Pas toi, l'âne Gaydin. Moi, Aes Sedai a une mission pour toi. Ne t'en fais pas, le lionceau sera en sécurité. »
Juste avant que la porte se referme dans son dos, Rand entendit le cri de soutien que lui adressa le champion.
« Taïchar, Mané Terren !»
Rand traversa l'antichambre, puis entra avec Léane dans ce qui devait être le salon de la suite royale. Moiraine Sedai était assise d'un côté de la pièce, et une des Aes Sedai marrons qu'il avait rencontrées dans le donjon avait pris place du côté opposé. Assise dans un fauteuil, derrière un grand bureau, la chère d'Amyrlin attendait sereinement son visiteur. Les rideaux étant à demi tirés, on n'y voyait pas assez bien pour distinguer les traits d'une personne. Rand reconnut pourtant la dirigeante des Aes Sedai, qu'il avait aperçu le jour du combat contre les Trollocs et les Myrdraal infiltrés dans la forteresse. La main gauche sur le pommeau de son arme, Rand mit un genou en terre, prit fermement appui sur le tapis à motif et inclina poliment la tête.
« Vous m'avez envoyé mander, mère, et je suis venu dès que je l'ai pu. Sachez que je suis prêt, désormais.
Vraiment ?»
lança la chère d'Amyrlin d'un ton presque amusé. Si la voix était insouciante, l'expression glaçait les sangs.
« Allons, relève-toi, et laisse-moi t'examiner en détail. »
Rand se redressa et se concentra sur la chère d'Amyrlin, la défiant froidement du regard.
« Assieds-toi, mon garçon, »
dit la chère d'Amyrlin, en désignant la chaise à dos de cuir placée devant le bureau.
« Cette séance sera longue, j'en ai peur. Merci, mère. »
souffla Rand en inclinant la tête. Comme l'âne lui avait dit, il posa la main sur le pommeau de son épée et releva discrètement les yeux.
« Je resterai à tes côtés, mère, car le temps de veiller n'est pas révolu. »
La chère d'Amyrlin soupira d'agacement, puis elle se tourna vers Moiraine.
« Ma fille, l'as-tu confiée aux bons soins de l'âne ? Tout cela sera encore plus difficile s'il prend un malin plaisir à s'exprimer comme un champion. Mère, l'âne a formé tous les garçons. Parce qu'il portait une épée, il a consacré un peu plus de temps à celui-ci. »
Aes Sedai Marron s'agita sur sa chaise.
« Les Gaydin sont des têtes de mules bouffies d'orgueil, mère. Mais nous avons besoin d'eux. Je ne serai rien sans Thomas.
et tu détesterais perdre Aldric. J'ai même entendu quelques sœurs rouges regretter de ne pas avoir de champion. Et bien entendu, je ne mentionne même pas la position des sœurs vertes.
Les trois Aes Sedai continuèrent leur conversation, ignorant superbement Rand.
« C'est une épée au héron, semble-t-il ?»
dit la chère d'Amirline.
« Comment est-il entré en sa possession, Moiraine ?»« Tam Altor a quitté Deux Rivières alors qu'il était encore adolescent. Il s'est engagé dans l'armée ilianienne pendant la guerre des Capes Blanches et les deux derniers conflits contre Théar. Très vite, il a été promu maître escrimeur et second capitaine des compagnons. Après la guerre des Aiel, il est revenu chez lui avec une femme originaire de Kemlin et un bébé de sexe masculin. Si j'avais su tout ça plus tôt, beaucoup de choses auraient été moins dramatiques. Mais j'ai appris très récemment cette histoire. »
Rand dévisagea Moiraine. Il savait que Tam avait quitté Deux Rivières, puis était revenu avec une épouse et la fameuse épée. Mais pour le reste,
où as-tu appris tout ça à Aes Sedai de malheur ? Pas à Chandemonde.
Sauf si Nineveh t'a confié des informations qu'elle me cacherait donc depuis toujours.
Et le bébé de sexe masculin ? Elle aurait pu dire son fils, puisque c'est bien ce que je suis. Contre Théar,
répéta la chère d'Amirline, songeuse.
Durant ces conflits, les torts étaient des deux côtés, des imbéciles d'hommes plus désireux de s'étriper que de dialoguer. Vérine, peux-tu découvrir si cette arme est authentique ?
C'est très possible, mère.
Alors, ma fille, prends cette épée et détermine son origine.
Alors que les trois femmes l'avaient complètement oubliée, Rand recula de quelques pas, la main serrée sur la poignée de son arme.
« Mon père m'a offert cette épée, »
lâcha-t-il froidement.
« Et personne ne me l'arrachera impunément. »
Après cette noble déclaration, le jeune homme s'avisa que Vérine n'avait même pas bougé de son siège.
« Ainsi, »
dit la chère d'Amirline,
« un cœur bat sous cette poitrine. Et tu as en toi une véritable flamme, pas seulement celle que l'âne y a importée. C'est une bonne chose, car tu en auras besoin. Je suis ce que je suis, mère, et j'affronterai la tourmente debout. »
La chère d'Amirline eut un sourire amer.
« L'âne t'a tout communiqué, à ce que je vois. Bon, ouvre en grand tes oreilles, Rand Altor. Dans quelques heures, Ingtar et ses hommes partiront à la recherche du corps de Valère. Ton ami Matt les accompagnera, et je pense que ton autre ami, Perrine, c'est ça, ira aussi. Veux-tu partager l'aventure avec eux ?»« Matt et Perrine s'en vont ?»
s'écria Rand. Un peu tard, il pensa à ajouter d'un ton respectueux.
« Ils s'en vont vraiment, mère ? Tu es informé au sujet de la dague que portait avec lui ton ami ? Cet artefact répugnant a également disparu. Si on ne retrouve pas cette dague, le lien entre elle et Matt ne pourra pas être brisé totalement, et il mourra. Si ça te tente, tu peux partir avec tes deux amis. Si tu préfères séjourner ici, le seigneur Hagelmar t'offrira l'hospitalité aussi longtemps que tu voudras. Quant à moi, je m'en irai demain, en compagnie de Moiraine, Nineveh et Egwene. » Donc, si tu restes à Faldara, prépare-toi à une longue cure de solitude. Le choix est entre tes mains.
Rand n'en crut pas vraiment ses oreilles.
Je peux faire ce que je veux ? C'est bien ce qu'elle vient de dire ? Elle m'a convoqué pour ça ? Mais Matt risque la mort.
Le jeune homme jeta un coup d'œil à Moiraine. Assise bien tranquillement, les mains sur les genoux, elle semblait se ficher comme d'une guigne de ce qu'il entendait faire.
« Dans quel sens essaies-tu de me pousser, Aes Sedai ? Si je devine, j'irai dans la direction opposée, tu peux me croire. Mais si Matt est en danger de mort, pas question de l'abandonner. D'accord, mais comment trouver cette fichue dague ? Tu n'es pas obligé de choisir dès maintenant, »
dit la chère d'Amirline. Elle aussi semblait se moquer de ce qu'il déciderait.
« Cela dit, il faudra trancher avant le départ d'Ingtar. » « Je l'accompagnerai, mère. »
La chère d'Amirline hocha distraitement la tête.
« J'en prends note. Maintenant, si nous passions aux choses importantes. Mon garçon, je sais que tu peux canaliser le pouvoir. Qu'as-tu à me dire sur le sujet ?»
Rand en resta bouche bée. Alors qu'il se concentrait sur son angoisse pour Matt, cette façon de sauter du coq à l'âne lui donnait l'impression qu'un château tout entier venait de lui tomber sur la tête. Incapable de puiser dans les instructions de l'âne, comme si sa tête s'était soudain vidée de certains souvenirs, il regarda la chère d'Amirline, la bouche ouverte et les yeux ronds. Se douter qu'elle savait était une chose. En avoir la certitude bouleversait littéralement la donne. La chef des Aes Sedai s'était penchée en avant dans son fauteuil, attendant la réponse de Rand. Mais il aurait juré qu'elle brûlait d'envie de se radosser à son siège. Qu'avait donc dit Lan ? Si elle avait peur de lui, enfin, c'était ridicule. Une femme pareille, redoutant un berger ?
Je ne canalise pas vraiment. En tout cas, ça n'a rien de volontaire. Je ne veux plus avoir affaire au pouvoir. Mère, je ne recommencerai plus, c'est juré.
Eh bien, c'est une position très sage,
commenta la chère d'Amirlin.
Et en même temps d'une parfaite absurdité. La majorité des gens est incapable de canaliser. Quelques individus très rares peuvent apprendre à le faire, et une poignée de prodiges sont dotés de cette aptitude à la naissance. Tôt ou tard, ils utiliseront le pouvoir. C'est inévitable, comme pondre des œufs pour une poule. Tu recommenceras, mon garçon, que tu le veuilles ou non. Si tu n'apprends pas à contrôler cette force, tu ne vivras pas assez longtemps pour devenir fou allié. Le pouvoir de l'unique tue ceux qui sont incapables de le maîtriser. Et comment suis-je censé apprendre ?
Demanda Rand. Moiraine et Vérine ne bronchèrent pas, continuant à le regarder fixement.
Des araignées au centre de leur toile.
Oui, comment ?
Moiraine prétend ne rien pouvoir m'enseigner, et j'ignore même par où commencer.
De toute façon, ça ne m'intéresse pas, parce que je veux tout lâcher.
Je ne t'ai pas menti, Rand.
Dit Moiraine, comme s'il s'agissait d'une banale conversation de salon.
Ceux qui auraient pu te former, les Aes Sedai mâles, ont été rayés de la surface du monde il y a plus de 3000 ans. Aucun Aes Sedai ne peut apprendre à entrer en contact avec le Saïdin. Et le Saïdar est définitivement hors de ta portée. Un oiseau ne peut pas apprendre le vol à un poisson. Et un poisson n'enseignera jamais la nage à un oiseau.
J'ai toujours pensé que ce proverbe était idiot.
Intervint Vérine.
Il existe des oiseaux plongeurs, voire nageurs, et, dans la mer des tempêtes, on voit de très longs poissons au bec aiguisé comme la lame d'une épée, et ceux-là, croyez-le ou non, sont parfaitement capables de voler.
La voix de Vérine mourut. Très mal à l'aise, elle sembla rapetisser sous le regard brûlant des deux autres Aes Sedai. Rand profita de cette diversion pour essayer de se ressaisir. Comme Tam le lui avait appris, il pensa très fort à une flamme et l'alimenta avec ses angoisses, cherchant désespérément à faire naître en lui un vide salvateur. La flamme grossit tant que son créateur en perdit le contrôle. Quand elle sembla vouloir embraser l'univers entier, elle se dissipa, laissant dans sa traîne une profonde impression de paix. Autour de la bulle de vide, les émotions rôdaient encore comme des vautours, mais le vide ne les laisserait pas envahir de nouveau son âme. Sur cet étang paisible, les sentiments glissaient comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Les Aes Sedai cessèrent de parler entre elles et se concentrèrent de nouveau sur leur invité.
« Pourquoi me parlez-vous ainsi, mère ? Vous devriez vouloir m'apaiser. »
La chère d'Amirlin plissa le front et se tourna vers Moiraine.
« C'est Lan qui lui a appris ça ? Non, mère, il tient cette technique de Tam Altor. »
« Alors, pourquoi tant de sollicitude ?»
insista Rand. La chair d'Amirlin se tourna vers lui et le regarda droit dans les yeux.
« Parce que tu es le dragon réincarné. »
Le vide disparut. Le monde trembla comme si la terre allait s'ouvrir en deux, et tout se mit à tourner autour de Rand. Il invoqua de nouveau la flamme, rappela en lui le vide, et parvint à empêcher l'univers de basculer dans la folie.
« Non, mère !» Je peux canaliser le pouvoir, c'est vrai, mais je ne suis pas Raoulin Noir Fléau, Geir Amalassan ou Yurian Arc de Pierre. Vous pouvez m'apaiser, me tuer ou me laisser partir, mais je ne serai jamais un faux dragon apprivoisé tenu en laisse par Tarvalon.
Vérine en cria d'indignation, et la chair d'Amerlin écarquilla ses yeux au reflet bleu soudain meurtrier. Ses réactions n'affectèrent pas Rand, puisque le vide le protégeait.
Où as-tu entendu ces noms ?
Demanda la chair d'Amirlin.
Qui t'a dit que Tarvalon n'a jamais tiré les ficelles d'un seul faux dragon ?
Un ami, mère. Un trouvère nommé Tom Merilin. Il est mort à présent.
Moiraine soupira d'agacement. Elle affirmait que Tom était bien vivant, mais sans être à même de le prouver. Comment un homme pouvait-il survivre à un corps à corps contre un blafard ? Repoussé par le vide, cette question mourut presque instantanément dans l'esprit de Rand.
Tu n'es pas un faux dragon,
dit la chair d'Amirlin.
Nous avons devant nous le dragon réincarné. Mère, je ne suis qu'un berger de deux rivières. Ma fille, raconte-lui l'histoire. Une vraie histoire, mon garçon. Surtout, écoute bien.
Moiraine obéit. Rand ne quitta pas la chair d'Amerline des yeux, mais ça ne l'empêcha pas d'entendre.
Il y a une vingtaine d'années, les Aiel ont traversé la colonne vertébrale du monde, autrement dit le mur du dragon, pour la première fois de mémoire d'homme. Ils déferlèrent sur le Caïrien, écrasèrent toutes les armées qui tentèrent de les arrêter, et finirent par raser jusqu'à la cité de Caïrien. Ensuite, ils prirent le chemin de Tarvalon, se battant pour chaque pouce de terrain gagné. En plein hiver, tout était recouvert de neige, mais pour un Aiel, le froid ou la chaleur ne sont jamais des obstacles. La bataille finale, la dernière qui eut de l'importance, se déroula devant les murs scintillants, à l'ombre du pic du dragon. Au terme de 3 jours et 3 nuits de combat, les Aiel furent repoussés. Ou plutôt, ils se retirèrent, car ils avaient accompli la mission qu'ils s'étaient assignée. Tuer le roi Laman du Caïrien pour le punir de ses péchés envers l'arbre. C'est là que commence mon histoire, Rand. Et la tienne.
La voix de Tam retentit de nouveau dans la tête du jeune berger.
Ils déferlent du mur du dragon comme un rat de marée. Sur leur passage, la terre s'imbibe de sang. Combien d'hommes devront mourir pour expier la faute de Laman ?
Blessé et brûlant de fièvre, le père de Rand avait déliré, évoquant un passé dont son fils n'avait jamais entendu parler.
À cette époque,
continua Moiraine,
je comptais parmi les acceptés, comme notre mère, la chère d'Amirline. Peu avant de prononcer nos vœux, on nous désigna pour tenir lieu de dame de compagnie à la chère d'Amirline d'alors. Jitara Moroso, sa gardienne des chroniques, était également présente. Toutes les autres sœurs de Tarvalon, même les Rouges, avaient quitté la Tour Blanche pour aller s'occuper des innombrables blessés. À l'aube, alors que le feu dans la cheminée ne parvenait plus à vaincre le froid, la neige cessa enfin de tomber. Dans les appartements de la chère d'Amirline, au cœur même de la Tour Blanche, nous sentions la fumée qui montait des villages incendiés pendant la bataille.
« Les batailles sont toujours brûlantes, même dans la neige. La sueur est chaude comme le sang. Seule la mort est glaciale. »
La voix de Tam s'attaquait au vide intérieur de Rand, menaçant de le réduire en lambeaux. Le calme n'était plus qu'une façade, derrière laquelle la solide construction de toute une jeune vie risquait à tout instant de s'écrouler. La chair d'Amirline dévisagea le jeune homme, qui se sentit fondre sous son regard brûlant.
« Il délirait à cause de la fièvre, »
souffla Rand. Il haussa le ton.
« Mon nom est Rand Altor. Je suis un berger, fils de Tam Altor, et... »
Moiraine s'était tue un instant pour le laisser parler, mais elle reprit le fil de son récit.
Le cycle de Caraëton, autrement dit les prophéties du dragon, annonce que le dragon renaîtra sur les pentes du pic du dragon, là où il est mort au temps de la dislocation du monde. Jitara Sedai avait par intermittence un don de voyance. Elle était très vieille, avec des cheveux plus blancs que la neige, mais quand il se manifestait, son pouvoir était très puissant. Alors que la lumière de l'aube qui filtrait des fenêtres devenait de plus en plus claire, au moment où je tendais une tasse d'infusion à Jitara Sedai, la chère d'Amirline me demanda s'il y avait des nouvelles du front. Jitara se leva soudain d'un bond, les membres tétanisés, et écarquilla les yeux d'horreur, comme si elle venait de les baisser sur la fosse de la perdition, au cœur du mont Chagulgul. Puis elle s'écria « Il renaît, je le sens. Le dragon prend sa première inspiration sur les pentes du pic du dragon. Il vient à nous. Que la lumière nous aide, il vient à nous. Que la lumière ait pitié du monde. Gisant dans la neige, il crie plus fort que le tonnerre. Brûlant comme le soleil, voilà ce qu'il est. » Sur ces mots, elle s'est écroulée dans mes bras, raide morte.
Le versant de la montagne, unique endroit qui ne puait pas la mort, je fuyais l'odeur et la vue des cadavres, entendu les pleurs d'un bébé.
Rand tenta de nouveau de conjurer la voix de Tam, mais le vide résistait de moins en moins bien.
Je suis né sur le territoire de Deux Rivières.
Le bébé était déjà bleu de froid, aurait dû mourir aussi, mais il pleurait dans la neige. Comment l'abandonner ?
La fièvre, il délirait.
Nous n'avions pas d'enfant, et tu en voulais un, je le savais. Kari, je suis sûr que tu l'aimeras.
Rand détourna le regard de la chair d'Amirline, puis il se concentra sur ce qui lui restait de vide et de calme. La partie était perdue d'avance, il le savait, mais il ne pouvait pas renoncer à...
Oui, ma chérie, Rand est un très joli nom. Un bon prénom pour un gentil petit gars.
Je suis Rand Altor.
Une ultime protestation pour la gloire.
Nous sûmes ainsi que le dragon s'était réincarné,
continua Moraine.
La chair d'Amirline nous fit jurer le secret, car elle savait que beaucoup de sœurs ne verraient pas la réincarnation de la bonne façon. Elle nous ordonna aussi de chercher le bébé, mais il y avait tant d'orphelins à l'issue de la bataille. Nous entendîmes quand même l'histoire d'un homme qui avait trouvé un bébé dans la montagne. On ne précisait rien de plus. Un homme et un bébé. Nous continuâmes à chercher, en quête de nouveaux indices, y compris dans les prophéties. Le sang antique coulera dans ses veines, et le sang ancien l'élèvera. C'est une prédiction. Et il y en a bien d'autres. De plus, le sang antique, celui qui remonte jusqu'à l'âge des légendes, est encore puissant en plus d'un endroit. Mais un jour, sur le territoire de deux rivières, là où le sang ancien de Manéthérène coule encore à flot, dans le village de Champ des Mondes, j'ai découvert l'existence de trois garçons nés à quelques jours de la date anniversaire du conflit final de la guerre des Aiel. En plus de tout, l'un d'entre eux savait canaliser le pouvoir. Rand, tu penses que les Trollocs sont venus uniquement parce que tu es Taveren? Non. Ils traquaient le dragon réincarné.
Ses jambes se dérobant, Rand tomba à genoux et il dut poser les mains sur le tapis pour ne pas basculer face contre terre. Le vide et le calme n'étaient plus que de doux souvenirs. Et quand il releva les yeux, celui qui n'était pas un jeune berger vit que les trois Aes Sedai le regardaient fixement. Comme d'habitude, leurs visages sereins ne trahissaient rien de leurs sentiments, mais leurs yeux ne sillaient pas, indiquant une évidente tension.
« Mon père se nomme Tam Altor, et je suis né. »
Toujours ses regards fixes, comme une condamnation muette.
« Elles mentent. Je ne suis pas ce qu'elles disent. Elles tentent de me manipuler, de faire de moi leur marionnette. »
« Une encre ne perd pas de sa valeur parce qu'on l'utilise pour mouiller un bateau, »
dit la chair d'Amirline.
« Tu as été conçu pour remplir une mission, Rand Altor. Lorsque les vents de Tarmon Gaidon se déchaîneront, il affrontera les ténèbres et ramènera la lumière sur cette terre. Les prophéties doivent se réaliser, Rand. Sinon le ténébreux sortira de sa prison et remodellera le monde à son image. L'ultime bataille approche. Et tu es né pour fédérer l'humanité et la conduire au combat contre le Père des mensonges. »
Baal-Zamon est mort,
dit Rand d'une voix étranglée. La chair d'Amirline ricana comme un vulgaire garçon d'écurie.
Si tu crois ça, tu es aussi idiot que les Domani. Chez eux, beaucoup de gens pensent qu'il est mort ou le prétendent. Mais ils ne se risquent quand même pas à prononcer son nom. Le ténébreux est toujours vivant, et il menace de se libérer. Tu finiras par l'affronter, parce que c'est ton destin.
C'est ton destin.
Une phrase que Rand avait déjà entendue, dans un rêve qui n'en était peut-être pas vraiment un. Que dirait la chair d'Amirline si elle savait que Baal-Zamon lui parlait dans ses songes?
Allons, c'est terminé. Il est mort devant mes yeux.
Soudain, Rand s'avisa qu'il était accroupi comme un crapaud devant ses femmes, se recroquevillant sous leur regard glacial. Il tenta d'invoquer de nouveau le vide, mais des voix résonnèrent dans sa tête, réduisant à néant ses efforts.
C'est ton destin. Un bébé dans la neige.
Tu es le dragon réincarné.
Rand est un joli nom, Kari.
Je refuse d'être manipulé.
Puisant des forces dans son atavique obstination, Rand réussit à se relever. Comme avait dit Lan, il allait affronter la tourmente debout. Ainsi, il conserverait peut-être au moins sa dignité.
Qu'allez-vous faire de moi?
Demanda-t-il aux trois Aes Sedai, qui le regardaient toujours avec une terrifiante neutralité.
Rien.
Répondit la chair d'Amirline. La seule réponse que Rand n'attendait pas. Les mots qui le terrorisaient ne seraient-ils donc pas prononcés?
Tu veux accompagner Ingtar et tes amis, as-tu dit? Eh bien, libre à toi de le faire. Je ne t'ai en aucune façon signalé à l'attention des sœurs. Certaines doivent savoir que tu es Taveren, mais ça ne va pas plus loin que ça. La vérité sur ce que tu es, nous ne sommes que trois à la connaître. On m'amènera bientôt ton ami Perrine, et j'irai voir Matt à l'infirmerie. Rand, tu peux t'en aller quand tu veux, sans craindre que nous lancions les sœurs rouges à tes trousses.
La vérité sur ce que tu es.
La rage faisait bouillir le sang de Rand, mais il parvint à n'en rien laisser paraître.
Pourquoi tant de générosité? Parce que les prophéties l'exigent. Nous te laissons libre, en toute connaissance de cause, pour éviter la destruction du monde sous les coups et les flammes du ténébreux. Ne t'y trompe pas. Toutes les Aes Sedai ne partageraient pas cette position. Ici même, certaines de nos sœurs, si elles savaient un dixième de la vérité, t'élimineraient aussitôt et n'en éprouveraient pas plus de remords que lorsqu'elles vident un poisson. Mais bien des hommes avec qui tu as plaisanté et ri feraient exactement la même chose s'ils découvraient la vérité. Sois prudent, Rand Altor, toi le dragon réincarné.
Rand regarda tour à tour les trois femmes.
Vos prophéties ne me concernent pas.
Impassible, les trois Aes Sedai rendirent son regard au jeune homme. En les voyant ainsi, comment croire qu'elle tentait de le convaincre qu'il était la réincarnation de l'homme le plus détesté et le plus redouté de l'histoire? Parvenu de l'autre côté de la peur, Rand se trouvait maintenant dans un désert glacé où seule la colère pouvait encore le réchauffer. Ses femmes pouvaient l'apaiser ou le carboniser sur place. Il n'en avait plus rien à faire. Il se souvint soudain des ultimes instructions de l'âne. Posant la main gauche sur le pommeau de son épée, il fit basculer le fourreau à l'horizontale derrière lui, le saisit de la main droite, puis s'inclina, les deux bras bien tendus.
« Mère, avec votre autorisation, puis-je me retirer ?»«
Je t'en donne l'autorisation, mon fils. »
Rand se releva et ne fit pas immédiatement demi-tour.
« Personne ne me manipulera, »
dit-il. Dans un silence de mort, il tourna le dos aux Aes Sedai et sortit. Après le départ de Rand, il fallut un long moment pour que la chair d'Amerlin se décide enfin à rompre le silence.
« Je ne me sentirai jamais très fière de ce que nous venons de faire. »
soupira-t-elle.
« C'était nécessaire, mais...
avons-nous réussi, mes filles ?»
Moiraine secoua presque imperceptiblement la tête.
« Je n'en sais rien. Cela dit, c'était vraiment nécessaire, et ça le restera. »«
Nécessaire, oui. »
confirma Vérine. Elle se tapota le front, puis regarda le bout de ses doigts humides de sueur.
« Il est très fort, et aussi têtu que tu le disais, Moiraine. » Je ne l'aurais pas cru si puissant. Tout compte fait, il faudra peut-être nous résoudre à l'apaiser.
Elle écarquilla les yeux.
Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Les prophéties. Que la lumière nous pardonne de lâcher un tel fléau sur le monde.
D'abord les prophéties,
acquiesça Moiraine.
Ensuite nous ferons ce qui s'imposera. Comme aujourd'hui.
Comme aujourd'hui, oui,
approuva la chair d'Amerlin.
Mais quand il aura appris à canaliser le pouvoir, que la lumière nous protège.
Un lourd silence ponctua cette fervente prière. Une tempête approchait, Nineveh la sentait. Une formidable tempête, pire que tout ce qu'elle avait jamais vu. En écoutant le vent, elle entendait ce qu'il allait advenir du climat. Toutes les sages dames affirmaient en être capables, mais ce n'était pas vrai, loin de là. Très fière de son don, jusqu'à ces derniers temps, Nineveh était bien plus dubitative depuis qu'elle avait découvert un lien entre sa magie et le pouvoir de l'unique. Toute femme en mesure d'écouter le vent pouvait aussi canaliser le pouvoir. Comme Nineveh, la plupart des sages dames n'étaient pas conscientes de ce qu'elles faisaient et n'avaient qu'un contrôle très limité sur leurs petits talents. Cette fois, ce n'était pas comme d'habitude. Dans le ciel d'un bleu limpide, le soleil matinal brillait comme une boule d'or pur et les oiseaux chantaient gaiement dans les arbres des jardins. Mais le problème n'était pas là. Si Nineveh n'avait pas pu prévoir le temps avant que des signes annonciateurs soient visibles, à quoi bon aurait donc servi son don? Ce qui clochait, c'était la sensation qu'elle éprouvait. Une impression subtilement différente de ce qu'elle expérimentait d'habitude. La tempête lui paraissait lointaine. Pour être franche, bien trop distante pour qu'elle puisse la sentir. Pourtant, elle l'anticipait, comme si le ciel était sur le point de déverser d'incroyables quantités d'eau, de neige et de grêle en même temps. Le vent soufflant assez fort pour ébranler les murs de la forteresse. Simultanément, la sage-dame sentait que le beau temps durerait encore des jours et des jours. Mais cette prescience-là était comme étouffée par l'autre. Un pinson bleu, perché dans une meurtrière, sondait le couloir comme s'il tentait lui aussi d'écouter le vent. Dès qu'il aperçut Nineveh, il s'envola dans un grand battement de plumes bleues et blancs. La sage-dame fixa un long moment l'endroit où s'était tenu l'oiseau.
« Il y a une tempête et il n'y en a pas. » Ça veut sûrement dire quelque chose. Mais quoi?
Tout au bout du couloir arpenté par une multitude de femmes et de petits-enfants, Nineveh aperçut Rand, son escorte exclusivement féminine presque obligée de courir pour ne pas se laisser distancer. Tout devint soudain clair. S'il devait y avoir une tempête qui n'en était pas une, il en serait le centre. La sage-dame releva l'ourlet de sa jupe et courut pour attraper le jeune homme de Champ des Mondes. Des femmes avec qui elle avait sympathisé lors de son séjour à Faldara tentèrent de lui parler. Sachant que Rand était arrivé avec elle et qu'ils venaient tous les deux du même territoire, elles espéraient apprendre pourquoi la chair d'Amerlin avait convoqué un simple berger.
« La chair d'Amerlin, rien que ça !»
Sans répondre à ses amis,
Ninevée accéléra encore le pas pour rattraper Rand. Mais elle le perdit de vue bien longtemps avant d'avoir atteint les limites des quartiers des femmes.
« Dans quelle direction est-il allé ? »
demanda-t-elle à Nisura. Inutile de mentionner un nom. Autour d'elle, toutes les femmes parlaient de Rand à voix plus ou moins basse.
« Je n'en sais rien, Ninevée. Il est sorti en trombe, comme s'il avait le fléau du cœur à ses trousses. Après être entré ici avec une épée au côté, il aurait dû s'inquiéter de toute autre chose, tu veux mon avis. Parfois, je me demande où va le monde. Et il est allé voir la chère d'Amirlin dans ses appartements, ni plus ni moins. Dis-moi, est-il vraiment un prince dans votre pays ?»
Les autres femmes se turent et tendirent l'oreille. En s'éloignant, Ninevée n'aurait su dire exactement ce qu'elle avait répondu. En tout cas, cela avait suffi pour qu'on la laisse partir. Toujours au pas de course, elle remontait les couloirs en regardant de droite et de gauche, à la recherche de Rand.
« Par la lumière, que lui ont-elles fait ? J'aurais dû le tenir éloigné de Moiraine. C'était le devoir de sa sage dame. »«
Sa sage dame ?»
répéta une petite voix moqueuse.
« Tu as abandonné Chandemonde à ses ennuis et à ses problèmes. Peux-tu encore prétendre être la sage dame de ce village ?»
Ninevée ne se laissa pas désarçonner.
« Je n'ai rien abandonné du tout. N'ai-je pas fait venir Mavra Malène de Promenade de Deven afin qu'elle me remplace jusqu'à mon retour ? Elle s'en tirera bien avec le bourgmestre et le conseil. Et je sais qu'elle s'entend bien avec le cercle des femmes. »
La petite voix ne désarma pas.
« Mavra devra tôt ou tard retourner chez elle. Promenade de Deven, comme tout autre village, ne pourra pas se passer longtemps de sa sage-dame. »
Un coup en plein dans le mille. Voilà des mois que Ninevée avait quitté de Rivière.
« Je suis la sage-dame de Chandemonde !»
cria-t-elle. Un serviteur en livrée qui portait un lourd ballot de linge la regarda bizarrement, puis inclina la tête, mais en continuant à la lorgner à la dérobée. À voir sa tête, il n'était pas rassuré du tout. Rouge comme une pivoine, Ninevée regarda autour d'elle pour voir si quelqu'un d'autre avait remarqué son éclat. Mais les quelques hommes présents dans le couloir étaient plongés dans leur conversation, et les femmes, exclusivement des domestiques en noir et or, semblaient trop accablées par leur charge de travail pour prêter attention aux fantaisies d'une noble dame, qu'elle prenait cependant soin, à tout hasard, de saluer d'un bref signe de tête. Ninevée avait eu une bonne centaine de fois ce débat houleux avec elle-même. Mais avant ce jour, elle n'était jamais allée jusqu'à parler toute seule. S'avisant qu'elle marmonnait toujours, elle se força à fermer hermétiquement la bouche. Alors qu'elle se résignait à ne pas retrouver Rand, elle aperçut l'âne. Lui tournant le dos, il était campé devant une meurtrière donnant sur la cour extérieure de la forteresse. Des hennissements et des cris en montaient, indiquant que des cavaliers arrivaient ou partaient. Très concentré, le champion, pour une fois, ne sembla pas entendre que quelqu'un approchait derrière lui. Jusque-là, Ninevée n'avait jamais pu le surprendre, et ça lui tapait sur les nerfs. À Chandemonde, elle était connue pour ses dons d'éclaireuse et son art de l'approche furtive. Deux qualités qui n'intéressaient guère les autres femmes, il fallait bien l'avouer. Elle s'arrêta et pressa les mains sur son estomac, qui lui semblait sur le point de se retourner.
« Décidément, il faut que je me prescrive une cure de racines de ranelle et de langue de mouton. »
Un mélange qu'elle donnait aux déprimés, aux malades imaginaires et aux crétins lunatiques. Ce médicament requinquait un peu le patient. En tout cas, il n'aggravait pas son état. Mais il avait surtout un goût abominable qu'on gardait en bouche toute la journée. Bref, il incitait les hypochondriaques à guérir pour échapper à cette torture permanente. Sûr que l'âne ne la voyait pas, Ninevée le regarda un long moment. Penché en avant, il se grattait pensivement le menton en suivant les événements qui se déroulaient dans la cour.
« Pour commencer, il est bien trop grand, et assez vieux pour être mon père. Et avec un visage comme celui-là, un homme doit sûrement être cruel. Non, pas cruel. Ce n'est pas du tout son genre. »
De plus, l'âne était un roi. Son pays ayant été détruit alors qu'il était enfant, il ne porterait jamais de couronne, mais il restait néanmoins un souverain.
Que ferait-il avec une banale villageoise ? Sans compter qu'il est aussi un champion uni à Moiraine. Il lui sera fidèle jusqu'à la mort. Et leurs liens sont bien plus forts que ceux de l'amour. En un sens, il est à elle. Maudite Aes Sedai qui possède tout ce que je désire. Que la lumière la brûle. »
L'âne se détourna de la meurtrière. Aussitôt, Ninevée se remit en chemin.
« Ninevée !»
Comme prise au lasso, la sage-dame s'immobilisa.
« Je veux depuis un moment te parler en privé, mais tu es toujours dans les quartiers des femmes, ou en compagnie d'une nuée de dames. »
Ninevée dut se forcer à regarder le champion en face. Mais lorsque ce fut fait, elle eut l'assurance que rien, sur son visage, ne trahirait son trouble.
« Je cherche Rand. »
Même sous la torture, l'âne ne lui ferait pas avouer qu'elle l'évitait.
« Toi et moi, nous nous sommes tout dit il y a longtemps de ça. Je me suis ridiculisé, ce que je ne ferai plus jamais. »
et tu m'as clairement envoyé sur les roses.
Je n'ai jamais...
Le champion prit une grande inspiration.
J'ai dit, et je le maintiens, que je n'avais rien à t'offrir, à part le voile d'une veuve. Qui voudrait faire un tel cadeau à une femme? Certainement pas un homme digne de ce nom.
Je comprends. De toute façon, un roi ne fait pas de présent à une villageoise.
Et si cela était, la villageoise n'accepterait pas.
As-tu vu Rand? Il faut que je lui parle. Il a été reçu par la chair d'Amirline. Sais-tu ce qu'elle lui voulait?
Les yeux du champion brillèrent comme de la glace bleue sous un soleil d'hiver. S'ancrant au sol pour ne pas reculer, Nineveh soutint le regard de défi du roi sans couronne.
Que le ténébreux emporte Randaltor et la chair d'Amirline!
L'âne glissa un objet dans la main de la sage-dame.
J'ai un présent à te faire, et tu l'accepteras, même si je dois te l'attacher autour du cou avec une chaîne.
Nineveh détourna la tête. Quand il était en colère, l'âne avait un regard de rapace qui lui glaçait les sangs. Baissant les yeux sur sa main, la sage-dame découvrit une chevalière en or brunie par l'âge et presque assez large pour qu'elle y passe deux doigts. Le sceau représentait une grue survolant une lance et une couronne. La bague des rois du Malkier, rien de moins. Oubliant qu'elle était censée foudroyer le champion du regard, Nineveh releva les yeux.
« Je ne peux pas accepter, l'âne. »
Le champion haussa les épaules.
« Ce bijou ne vaut plus rien. » Une vieillerie inutile désormais. Cependant, certains le reconnaîtront au premier coup d'œil, tu peux me croire. Tous les seigneurs des terres frontalières t'accueilleront et t'aideront si tu le leur demandes. Et n'importe quel champion, si tu lui montres cette bague, volera à ton secours ou viendra me remettre un message de toi. Si tu m'envoies la chevalière ou une lettre marquée de son sceau, je te rejoindrai où que tu sois, aussi vite que possible. Je te le jure sur mon honneur.
Nineveh sentit ses yeux s'embuer.
Si je pleure maintenant, j'irai me jeter de la première tour venue. Je ne peux pas. Je ne veux pas d'un cadeau de toi, à l'âne Mandragoran. Tiens, reprends-le.
L'âne écarta les bras, déjouant la manœuvre de Nineveh. Puis il lui prit les deux mains, les enveloppant délicatement, certes, mais avec autant d'efficacité que d'effet.
Prends-le pour mon bien, comme si tu me faisais une faveur. Ou jette-le dans les douves, si tu préfères. Pour moi, il n'est plus d'aucune utilité. »
L'âne frôla du bout d'un index la joue de Nineveh, qui sursauta comme s'il l'avait pincé.
« Je dois te laisser, Nineveh, ma Chiara. La chair d'Amirline entend partir avant midi, et il reste tant de choses à faire. Avec un peu de chance, nous aurons l'occasion de parler sur le chemin de Tarvalon. »
Le champion lâcha la jeune femme, fit volte-face, et s'éloigna à grands pas. Nineveh passa la main sur sa joue, exactement à l'endroit où il l'avait touchée. Ma Chiara, bien-aimée du cœur et de l'âme. Un grand amour, oui, mais un amour perdu et impossible à retrouver.
Assez, stupide femelle. Cesse d'agir comme une gamine qui n'a pas encore les cheveux nattés. Le laisser jouer avec tes sentiments est inutile, et...
Serrant la chevalière dans sa main, Nineveh se tourna pour partir et sursauta quand elle se retrouva face à face avec Moiraine.
« Depuis quand es-tu là ? Pas assez longtemps pour avoir entendu ce qu'il ne fallait pas. Mais nous partons bientôt. Ça, je le confirme. Tu devrais aller faire tes bagages. »
Partir. Quand l'âne en avait parlé, la sage-dame n'avait pas mesuré toutes les implications d'un départ.
« Je devrais dire au revoir au garçon. Moiraine, qu'as-tu donc fait à Rand ? Il est allé voir la chair d'Amirline. Pourquoi ? Lui avez-vous dit que... »
Comment formuler à voix haute une telle chose ? Rand venait du même village qu'elle. Plus âgée de quelques années, elle avait eu l'occasion de veiller sur lui une fois ou deux quand il était petit. Et maintenant, impossible de penser à ce qu'il était devenu sans en avoir des hauts le cœur.
« La chair d'Amirline les verra tous les trois, Nineveh. Les tavernes sont rares, et elle ne raterait pour rien au monde l'occasion d'en découvrir trois au même endroit. Elle leur soufflera sans doute des encouragements, puisqu'ils partent à la recherche du corps avec Ingtar et ses hommes. Comme ils s'en iront en même temps que nous, ou presque, je ne saurais trop te conseiller de te presser pour les adieux. »
Nineveh approcha d'une meurtrière et regarda en bas dans la cour extérieure. Il s'agissait donc d'un départ. Au milieu des destriers et des chevaux de bât, des hommes allaient et venaient en tous sens. Dans un îlot de relative quiétude, le palanquin de la chair d'Amirline attendait avec son attelage. Quelques champions s'occupaient de leurs chevaux et Ingtar, de l'autre côté de la cour, se tenait au centre d'un cercle de guerriers en armure. De temps en temps, un champion ou un soldat du Chiennard traversait la cour pour aller échanger quelques mots avec le groupe d'en face.
« J'aurais dû t'empêcher de mettre le grappin sur les garçons. »
marmonna Nineveh sans se retourner.
« Et arracher Egwene à tes griffes, si c'était possible sans lui ôter la vie. Par la lumière, pourquoi est-elle née avec ce maudit pouvoir ?»«
Oui, j'aurais dû les ramener tous à la maison. »«
Ils sont assez grands pour ne plus traîner dans tes jupes, »
répondit sèchement Moiraine.
« Et tu sais très bien que ce serait impossible. »
Pour l'un d'entre eux, en tout cas.
De plus, voudrais-tu laisser Egwene aller seule jusqu'à Tavalon?
Te priverais-tu de la formation qui t'y attend aussi?
Si tu n'apprends pas à bien canaliser le pouvoir de l'unique, tu ne seras jamais en mesure de l'utiliser contre moi.
Nineveh se retourna vivement, les yeux écarquillés de stupeur.
De quoi parles-tu donc? Me crois-tu aveugle, mon enfant? Bien. Si tu veux prendre les choses ainsi, je suppose que tu seras du voyage pour Tavalon? Oui. Le contraire m'étonnerait.
Nineveh aurait voulu frapper cette femme pour effacer de ses lèvres le petit sourire qui les étira fugitivement. Depuis la dislocation du monde, les Aes Sedai n'avaient plus pu exercer le pouvoir ouvertement et encore moins faire étalage du pouvoir de l'unique. Mais elles complotaient, tirant les ficelles dans l'ombre, comme si les souverains et les nations étaient des pierres sur un damier.
Elle veut me faire le même coup. Quand on joue avec les rois et les reines, pourquoi ne pas s'offrir une sage dame ? Comme elle entend s'offrir Rand. Mais je ne suis plus une enfant, Aes Sedai.
Et que vas-tu encore faire de Rand? Ne l'as-tu pas assez utilisé? J'ignore pourquoi tu ne l'as pas fait apaiser, alors que la chair d'Amirlin et toutes les autres Aes Sedai auraient pu t'aider. Mais tu as sûrement une idée derrière la tête. Encore une de tes machinations, je parie. Si la chair d'Amirlin savait, je suis sûr que...
Moiraine décida qu'elle en avait assez entendu.
Pourquoi s'intéresserait-elle à un berger? Bien entendu, si quelqu'un venait à attirer son attention sur lui, maladroitement, si tu vois ce que je veux dire, il risquerait d'être apaisé, voire abattu. Après tout, il est ce qu'il est. Les événements d'hier ont perturbé les esprits, et tout le monde est en quête d'un coupable.
Moiraine en resta là volontairement. Les dents serrées, Nineveh la foudroya du regard.
« Tu vois ?»
finit par dire la Aes Sedai.
« Il vaut mieux ne pas réveiller le lion endormi. » À présent, tu devrais aller faire tes bagages. »
Glissant sur le sol plus qu'elle le foulait, Moiraine s'éloigna dans la direction qu'avait prise l'âne. Furieuse, Nineveh flanqua un petit coup de poing dans un mur, et la chevalière s'enfonça dans sa paume. Ouvrant la main, elle regarda le bijou qui semblait stimuler sa colère et focaliser sa haine.
« J'apprendrai. Tu crois pouvoir m'échapper parce que tu as deviné mes intentions. Mais je deviendrai meilleur que tu l'imagines. Et tu paieras pour tous tes méfaits. » Le mal infligé à Matt et à Perrine, les torts que tu as faits à Rand. Que la lumière lui vienne en aide et que le Créateur le protège. Oui, surtout ce pauvre Rand.
Nineveh ferma le poing sur la bague du Malkier.
Et pour tout ce que tu m'as fait à moi.
Tandis qu'une domestique en noir et or rangeait ses robes soigneusement pliées dans une malle de voyage, Egwene ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Même après un mois, elle était toujours gênée de voir quelqu'un s'acquitter d'une corvée dont elle aurait tout aussi bien pu se charger. Ses robes étaient de vraie splendeur, des cadeaux de Dame Amalisa, comme la tenue de voyage grise que la jeune fille portait. Mais ces vêtements-là étaient d'une rare sobriété, à part quelques fleurs brodées sur la poitrine, alors que les autres auraient tous fait merveille au moment de Beltine ou pour la fête du soleil. Se souvenant qu'elle serait à Tarvalon lors de la prochaine fête du soleil, pas à Chandemonde, Egwene soupira à pierre fendre. D'après le peu que lui avait dit Moiraine sur la formation d'une novice, elle redoutait fort de ne pas être revenue chez elle pour les prochaines festivités de Beltine, voire pour la fête du soleil qui suivrait.
« Tu es prête ?»
demanda Nineveh, qui venait de passer la tête par la porte de la chambre. Voyant Egwene tout habillée, la sage-dame entra tout à fait.
« On nous attend déjà dans la cour extérieure. »
Nineveh portait également un cadeau d'Amalisa. Une robe de voyage bleue ornée sur la poitrine de nœuds d'amour rouge.
« J'aurai bientôt fini, oui. »
répondit Egwene.
« Vous savez, Nineveh, je suis presque chagrinée de partir. À Tarvalon, j'ai peur que nous n'ayons pas souvent l'occasion de porter les jolies robes qu'Amalisa nous a offertes. »
Elle eut un petit rire.
Cela dit, sage dame, je ne serais pas fâchée de pouvoir prendre un bain sans regarder tout le temps par-dessus mon épaule. Se laver en solitaire est bien plus agréable, je suis d'accord.
Dit Nineveh d'un ton à rien trop sec. Son expression ne changea pas, mais elle rosit très légèrement. Egwene eut un petit sourire.
Elle pense à l'âne.
Imaginer que la sage-dame se languissait d'un homme n'était toujours pas très facile. Pourtant,
Même si Nineveh aurait détesté qu'on lui présente les choses comme ça, elle se comportait ces derniers temps comme n'importe quelle jeune fille qui vient de choisir l'élu de son cœur.
Et bien entendu, elle a jeté son dévolu sur un mâle trop pleutre pour être digne d'elle. Elle l'aime, et il l'aime aussi, ça crève les yeux. Alors pourquoi n'a-t-il pas le courage de se déclarer ?
Egwene,
dit soudain Nineveh,
je crois que tu ne devrais plus m'appeler sage-dame.
La jeune fille en scia de surprise. Ce n'était pas une obligation en réalité, et Nineveh n'insistait jamais pour qu'on mentionne son titre, sauf quand elle était furieuse ou à cheval sur le protocole.
Et pourquoi ça ?
Tu es une femme à présent.
Nineveh jeta un regard furibard aux cheveux non nattés d'Egwene, qui résista à l'envie de se confectionner en toute hâte des tresses. Les Aes Sedai ne devaient obéir à aucune règle en matière de coiffure. La crinière en liberté de la jeune fille témoignait simplement qu'une nouvelle vie commençait pour elle.
« Oui, tu es une femme, »
répéta la sage-dame.
« Nous sommes très loin de Chandemonde, et ce n'est pas demain que nous y retournerons. Alors j'aimerais mieux que tu m'appelles par mon prénom et que tu me tutoies.
Nous reverrons notre foyer, Nineveh. Vous, tu peux me croire.
N'essaie pas de consoler une sage-dame, fillette. »
Lâcha Nineveh. Mais son sourire indiquait qu'elle plaisantait. On frappa soudain à la porte. Avant qu'Egwene ait le temps d'aller ouvrir, Nisura entra, l'air surexcité.
« Egwene, ton jeune ami tente encore de s'introduire dans le quartier des femmes. C'est un scandale. D'autant plus qu'il est armé. Je sais que la chair d'Améline l'a laissé entrer avec une épée, mais ce n'est pas une raison. Le seigneur Rand devrait être plus raisonnable. Il risque de provoquer une émeute. Egwene, tu dois aller lui parler.
Le seigneur Rand ?
Ricana Nineveh.
Ce garçon a la tête qui enfle, dirait-on. Quand je lui mettrai la main dessus, il aura intérêt à protéger son fond de pantalon.
Egwene posa une main sur le bras de la sage-dame.
S'il te plaît, Nineveh, laisse-moi lui parler en privé.
Si tu y tiens, les meilleurs hommes ne valent guère mieux que des animaux de compagnie dressés à ne pas uriner partout.
La sage-dame marqua une pause, puis elle ajouta, presque pour elle-même.
Mais quelques-uns valent la peine qu'on les apprivoise, malgré tous les ennuis que ça entraîne.
Egwene emboîta le pas à Nisura. Dans le couloir, elle hocha pensivement la tête. 6 mois plus tôt, Nineveh n'aurait jamais ajouté la deuxième phrase à son jugement péremptoire.
Mais elle n'apprivoisera jamais l'âne. Bon, si je revenais à mes moutons, Rand sur le point de provoquer une émeute ?
L'apprivoiser ?
Marmonna Egwene.
S'il n'apprend pas rapidement les bonnes manières, je finirai plutôt par l'écorcher vif. Dans certains cas, rien d'autre ne marche.
Acquiesça Nisura.
Avant le mariage, les hommes sont dans le meilleur des cas des demi-barbares. Tu as l'intention d'épouser le seigneur Rand, jeune fille ? Je ne voudrais pas être indiscrète, mais je sais que tu pars pour la Tour Blanche, et les Aes Sedai se marient rarement. À part celle de l'âge avert, d'après ce que je sais. Et encore, ce n'est pas très fréquent, et...
Egwene n'avait pas besoin d'entendre le reste. Dans les quartiers des femmes, le grand sujet en ce moment était de trouver une épouse à Rand, une compagne adaptée à son cas en quelque sorte. Au début, la jeune fille en avait été malade de jalousie et de rage. Depuis l'enfance, Rand et elle étaient promis l'un à l'autre, et... Certes, mais elle allait devenir une Aes Sedai, et lui... Eh bien, il était ce qu'il était. Un homme capable de canaliser le pouvoir. Si elle l'épousait, elle devrait le regarder sombrer dans la folie avant de mourir. L'apaisement était le seul moyen d'éviter ça.
Mais je ne peux pas lui faire une horreur pareille.
Nisura, je ne sais pas trop que dire.
Personne ne veut braconner sur tes terres, Egwene.
Mais tu vas résider à la Tour Blanche. Et lui, il ferait un très bon mari. Une fois dressé, bien entendu.
Les femmes qui gardaient l'entrée des quartiers avaient toutes le regard rivé sur 3 hommes campés dans le couloir, devant l'arche. Resplendissant dans sa veste rouge, son épée au côté, Rand faisait face à Agelmar et à Kadjin. Aucun des deux n'était armé. Malgré les événements de la nuit, on n'approchait pas du domaine des femmes en trimballant de la quincaillerie. Egwene atteignit le dernier rang de la foule de curieuses et s'arrêta.
« Comprends-tu pourquoi tu ne peux pas entrer ?»
demanda Agelmar à Rand.
« Je sais que les choses sont différentes au royaume d'Andorre, mais sais-tu ce qu'il en est ici ?»«
Je n'essaie pas d'entrer, »
dit Rand d'un ton las, comme s'il tentait de s'expliquer pour la 100e fois.
« J'ai fait savoir à Dame Nisura que je voulais voir Egwene. Elle m'a dit d'attendre parce que mon ami était occupé. Depuis, j'ai simplement tenté de l'appeler depuis l'arche. À aucun moment je n'ai fait mine d'en franchir le seuil, mais ces femmes m'ont toutes regardé comme si je venais de prononcer le nom du ténébreux. »
« Les femmes ne voient pas les choses comme nous. »
soupira Kadjin. Très grand pour un homme du Chiénard, son toupet de guerrier noir comme de la suie, Kajin avait le teint cireux, sans doute à cause d'une maigreur excessive.
Rand, en ce qui concerne leur quartier, elles décident des lois et nous les respectons, même quand elles sont stupides.
Plusieurs femmes froncèrent les sourcils, car cette diablesse avait l'ouïe fine. Mal à l'aise, Kajin se racla la gorge, puis déclara avec une ferveur très bien imitée.
Si tu veux parler à une résidente, tu dois lui envoyer un message. En attendant qu'il soit délivré, lorsque ces dames en auront décidé ainsi, tu es obligé de patienter. C'est notre coutume, voilà tout.
Je veux voir Egwen,
insista Rand.
Nous partons sous peu.
Pour moi, ce n'est pas trop tôt, bien au contraire.
Mais avant, il faut que je parle à mon ami. Nous retrouverons le corps de Valère et la dague, et ce cauchemar sera terminé. Fini à tout jamais. Voilà pourquoi je tiens à la voir avant de partir.
Egwen trouva bizarre la voix de son ami, qu'elle n'avait jamais entendu s'exprimer ainsi.
« Inutile de monter sur tes grands chevaux, »
dit Kajin.
Ingtar trouvera le corps au cours de sa mission. Et s'il échoue, un autre héros prendra le relais. La roue tisse comme elle l'entend, et nous ne sommes que de modestes fils dans la trame.
« Rand, »
ajouta Agelmar,
« ne te laisse pas subjuguer par le corps. Cet instrument peut dominer un homme. Je sais de quoi je parle. Et ce n'est pas ainsi que doivent être les choses. » Un guerrier doit se soucier de son devoir, pas de la gloire. Ce qui doit être sera, voilà tout. Si le corps de Valère est destiné à sonner au service de la lumière, il en sera ainsi.
Voilà ton Egwen,
dit soudain Kajin. Agelmar tourna la tête et aperçut à son tour la jeune fille.
Je te laisse entre de bonnes mains, Randaltor. N'oublie pas, ici sa parole a force de loi, pas la tienne. Dame Nisura, ne sois pas trop dur avec ce jeune homme. Il voudrait simplement voir son ami, et il ignore tout de nos traditions. »
Et Gwen emboîta le pas à Nisura, qui fendit la foule de curieuses, puis salua Agelmar et Kajin de la tête, dédaignant délibérément Rand.
« Seigneur Agelmar, seigneur Kajin, »
dit-elle d'un ton pincé,
« ce garçon devrait en savoir un peu plus long sur nos coutumes. Mais il n'a plus l'âge de recevoir une fessée, donc je laisserai Egwen décider de son sort. »
Très paternelle, le seigneur de Faldara tapota l'épaule de Rand.
« Eh bien, tu vas parler à ton ami, même si les circonstances sont un peu particulières.
Kajin, suis-moi. Nous avons encore du pain sur la planche, d'autant que la chère d'Amirline insiste pour que... »
Les deux hommes s'éloignèrent, laissant Rand seul face à Egwen et à une meute de femmes avides de voir ce qu'elle allait faire, s'avisa soudain la jeune fille.
« Je suis censée lui donner une bonne leçon, c'est ça ?»
Mais elle se sentait fondre rien qu'en le voyant ainsi, la chevelure en bataille et les traits tordus par un mélange de colère, de défiance et de lassitude.
« Faisons quelques pas, »
proposa Egwen. Alors que les deux jeunes gens s'éloignaient dans le couloir, des murmures déçus coururent dans la foule de femmes. Mal à l'aise dans son grand corps, Rand semblait chercher ses mots sans beaucoup de succès.
« J'ai entendu parler de tes exploits, »
dit Egwen.
Courir dans les couloirs des quartiers des femmes avec une épée au poing. Te rendre à une audience de la chair d'Amirline avec ton arme.
Rand ne mouffeta toujours pas.
Elle ne t'a pas maltraité, j'espère.
Par la lumière, qu'il était dur de prononcer le mot apaisé. Rand ne semblait pas le moins du monde plus calme, mais comment savoir de quoi devait avoir l'air un homme après la mystérieuse intervention des Aes Sedai?
Non, elle ne m'a... Eh bien, la chair d'Amirline... Ne t'inquiète pas. Elle ne m'a rien fait.
Egwen aurait juré qu'il mentait. En tout cas, qu'il brûlait d'envie de lui dire quelque chose. D'habitude, elle n'avait aucun mal à lui tirer les vers du nez. Mais quand il se fermait comme une huître, il n'y avait plus moyen de lui arracher un mot. Et à le voir serrer les mâchoires, il était dans un grand jour, niveau entêtement.
Que te voulait-elle, Rand? Rien d'important. Une histoire de taverne. Elle veut nous voir tous les trois.
L'expression du jeune homme s'adoucit un peu.
Et toi, Egwen? Moiraine m'a affirmé que tu allais bien, mais tu ne bougeais pas, et j'ai cru que tu étais morte.
Eh bien, tu te trompais.
Egwen se souvenait d'avoir demandé à Matt de l'accompagner dans les entrailles de la forteresse. Ensuite, c'était le trou noir jusqu'à son réveil, le lendemain matin. Et d'après ce qu'elle avait entendu dire de cette terrible nuit, avoir tout oublié n'était peut-être pas si mal.
Moiraine m'aurait bien laissé une terrible migraine. Si elle avait pu ne pas guérir tous mes maux.
mais ça n'a pas été possible.
Je t'ai dit de te méfier de Fane. Comme de juste, tu ne m'as pas écouté.
Si tu prends les choses comme ça, nous allons retourner voir Nisura. Elle sera moins bienveillante que moi, n'en doute pas. Le dernier homme qui a tenté de s'introduire dans les quartiers des femmes a passé un mois entier au lavoir, les mains plongées dans l'eau savonneuse. Une corvée punitive, alors qu'il essayait simplement de voir sa fiancée pour se réconcilier avec elle après une dispute. Et ce garçon-là était assez finaud pour ne pas avoir d'armes sur lui. Seule la lumière sait ce que ces dames te réservent.
Tout le monde veut me faire du mal,
marmonna Rand.
Vous m'utilisez contre mon gré. Eh bien, je ne me laisserai pas faire. Dès que nous aurons retrouvé le corps et la fichue dague de Matt, je ne permettrai plus à personne de me manipuler.
Et Gwen grogna d'agacement, puis elle prit le jeune homme par les bras et le força à lui faire face.
Si tu continues à raconter n'importe quoi, Rand Altor, je vais te frictionner les oreilles.
On croirait entendre Nineveh.
Rand sourit, mais il se rembrunit dès que son regard croisa celui des Gwen.
Je suppose que je ne te reverrai jamais. Je sais que tu dois aller à Tarvalon, que tu veux devenir une Aes Sedai. Moi, j'en ai terminé avec ces femmes. Je ne serai pas le pantin de Moiraine, ni d'une autre de ses sœurs.
Devant l'air perdu de Rand, Egwene eut envie de l'inviter à pleurer sur son épaule. En même temps, son obstination la poussait à lui frictionner pour de bon les oreilles.
Écoute-moi, gros bonnet. Je vais devenir une Aes Sedai, et je trouverai le moyen de t'aider. C'est promis.
Si nous nous revoyons, tu voudras m'apaiser, c'est couru.
Et Gwen s'assura que personne ne les épiait, puis elle souffla.
Si tu ne tiens pas ta langue, je ne pourrai rien pour toi. Tu veux que tout le monde soit au courant?
Trop de gens le savent déjà.
Et Gwen, j'aimerais que les choses soient différentes. Mais ce n'est pas le cas. Je voudrais... Prends soin de toi.
Et jure-moi de ne pas choisir l'âge à rouge.
Des larmes perlant à ses paupières, et Gwen jeta les bras autour du cou de Rand.
Toi, prends soin de toi. Si tu ne m'obéis pas, je...
La jeune fille crut entendre Rand murmurer intimide « Je t'aime ». Puis il l'écarta de lui, dénouant ses bras sans violence, mais avec une grande fermeté. Se détournant, il s'éloigna à grandes enjambées. Et Gwen sursauta quand Nisura lui tapota l'épaule.
On dirait que tu viens de lui confier une mission qui ne lui plaît pas. Mais il ne faut pas lui laisser voir tes larmes. C'est contre-productif. Viens, Nineveh te demande.
Après s'être séché les joues, Egwene suivit sa compagne.
Prends soin de toi, espèce de grand idiot têtu comme une mule. Et toi, lumière, veille sur lui. Je t'en supplie.